des entretiens de Causons d'Europe, épisode 2. L'engagement politique du club de football de Sankt-Pauli, vu par Xavier, animateur du fan club Sankt-Pauli Francophonie.
Je m'appelle Xavier, j'ai 45 ans, je suis moi-même en reprise d'études en sciences de l'éducation. Je suis fan de foot depuis environ 1998, mais pas pour la victoire française, parce qu'en fait, ce sont des amis Erasmus italiens qui m'ont fait apprécier le foot. Je me suis très rapidement intéressé au foot italien et j'ai été de très longues années supporter de l'AS Roma, mais qui m'a déçu petit à petit par le manque d'engagement politique et puis par la dérive justement liée à la changement de propriétaire aux alentours de 2011. Où je suis passé petit à petit vers un engagement plus lié à mes préoccupations concrètes, c'est-à-dire la politique. Et du coup, c'est Sankt-Pauli qui a attiré mon attention et qui m'a séduit.
Et c'est à partir de quelle année à peu près que vous avez décidé de supporter Sankt-Pauli?
Alors, Sankt-Pauli, je me suis intéressé à ce club vraiment de façon très concrète à partir de 2017.
Combien de personnes sont membres du fan club officiellement?
Alors, officiellement, nous avons 43 adhérents. 43 adhérents, certains sont en Allemagne, certains sont en Belgique, certains sont aux États-Unis, en France évidemment, et je crois qu'il y a encore un autre pays, en Norvège. C'est francophone, donc on a voulu ouvrir justement l'esprit un peu de Sankt-Pauli, c'est aussi l'esprit de border. Donc du coup, on n'a pas voulu lier à un territoire donné, parce que ça se fait souvent dans les fan clubs de Sankt-Pauli, c'est-à-dire que ce sont des clubs liés à une ville, liés à une région, liés à un pays. Avec les copains, on s'est dit que peut-être c'était l'occasion de dépasser un peu cette dimension, d'autant que la pandémie commençait à frapper quand on a commencé à mettre en place tout ça. Et comme du coup, les activités se faisaient beaucoup en distanciel, on s'est dit pourquoi pas finalement intégrer cette dimension du distanciel de manière plus large et d'ouvrir justement toutes les personnes qui avaient la langue française en véhicule de communication commun.
Quelles sont les actions du fan club?
Alors le fan club en lui-même, il a pour l'instant, en termes d'action, comme c'est distanciel, pas de réunion. Puisqu'on n'a pas de lieu, effectivement, les gens sont répartis sur un territoire qui est déjà national au niveau de la France pour la majorité très large. On ouvre effectivement à tous les adhérents qui sont pas en France, ça devient de tour plus compliqué de faire des réunions. Par contre, on a déjà mis en place des actions. Alors bon, on a le site qui donne de l'information politique mais liée au sport évidemment. Ça c'est une première action. On a des rédacteurs qui font des comptes rendus de lecture sur des BD, des ouvrages, des articles scientifiques ou de presse, qui nous donnent justement une ouverture aussi sur les dimensions qui font de la sociologie du sport, quelque chose d'intéressant dans sa dimension politique. Et puis, parallèlement à ça, surtout, on a, avec les adhésions, fait des ventes, plus acheter des matériels de supporters, c'est-à-dire des stickers, des écharpes, des t-shirts, et avec ces bénéfices, nous avons mis en place une cagnotte participative sur une plateforme locale. Cette plateforme nous donnait l'opportunité de pouvoir faire un crowdfunding qui est destiné à une association de soutien aux migrants sur la côte dunkerquoise. On a recueilli 650 euros. Un fan club du Sankt-Pauli, il se définit par la passion du sport, par la passion du club, du foot, et puis le suivi des résultats sportifs, évidemment. Mais au Sankt-Pauli, le résultat sportif, il passe au second plan, pas le cœur de la passion. Le cœur de la passion, c'est effectivement comment on transforme le sport en un outil social, un outil humanitaire, de soutien à des causes. Et de fait, quand on se fonde un fan club Sankt-Pauli, on a en premier lieu en ligne de mire l'idée qu'il faut effectivement avoir une utilité sociale.
Lié à ça, est-ce que vous pouvez nous parler de l'engagement de manière générale des supporters du club, des causes défendues,
alors,
etc.
Aussi bien allemands qu'internationaux, oui, je vais en parler. Pour faire un très rapide historique, en fait, le club, il a, jusqu'au milieu des années 80, un profil relativement standard. C'est un petit club de quartier dans Hambourg, une grande ville d'Allemagne, mais c'est un club secondaire, très secondaire. Il n'a pas d'orientation politique particulière, il se contente de participer à des compétitions dans l'esprit de l'associationnisme sportif allemand, c'est-à-dire que c'est des clubs qui sont ouverts à leurs adhérents pour pouvoir leur fournir une activité de loisirs et de compétition, mais effectivement il n'y a pas une ligne politique très très, très différenciée du Sankt-Pauli, jusqu'à ce que dans les années 80 se développe une forme de politisation d'extrême droite dans les stades et qu'en Allemagne ça prend justement au FSV, au grand club de Hambourg, des caractères un petit peu insupportables pour une partie des supporters du FSV qui décident que plutôt qu'aller dans les tribunes de leur club, de leur stade, entendre des chants racistes, ils vont aller au Sankt-Pauli, dans un club un peu plus secondaire, mais où ils seront mieux entourés ou dans une ambiance meilleur enfant. Donc cette première vague de supporters des années 83-85 à peu près décide effectivement de changer de club. Et parallèlement à ça, dans Hambourg, à cette époque-là, il y a le grand mouvement, et c'est toute l'Allemagne aussi, Francfort, Berlin, les autonomes libertaires, communistes, anarchistes, qui décident d'occuper des quartiers entiers d'immeubles qui sont à l'abandon, qui ne sont pas en tout cas occupés, et d'avoir des prises de position contre le nucléaire, pour la paix, et du coup, qui viennent se joindre à Hambourg, en tout cas dans le quartier de Langkorli, qui est un quartier très très populaire, très très prolétaire, aux femmes qui viennent d'arriver du HSV. Donc cette double origine fait que petit à petit, le club va développer la scène des femmes, on parle beaucoup de scène des femmes, oui, en Allemagne, va développer un caractère très propre, très particulier, qui va amener à développer un fanladen, une boutique des fans, qui va... une boutique en elle-même, mais plutôt un ensemble de services pour les déplacements, pour l'acquisition des billets, pour aussi effectivement impulser dans les travées du club une vision un peu différente de ce que c'est qu'un supporter. Et aujourd'hui, ça se traduit par effectivement un nombre assez important de mini-structures ou de structures plus importantes qui regroupent les fans aussi bien au niveau local qu'au niveau international et qui leur permettent d'avoir une voix. C'est la grande différence du sport en Allemagne, puisque c'est quelque chose d'assez spécifique, qui lui permet aux fans d'avoir une voix, et même plus qu'une voix, d'impulser la ligne à une directrice. Et d'ailleurs que le Sampdoria peut le comparer parfois à des clubs comme le Red Star en France, oui, ou comme Livourne en Italie, ou West Ham en Angleterre, ou Rayo Vallecano en Espagne, mais ça n'a pas tout à fait ce caractère-là, dans le sens où c'est plus approfondi. Et la grande différence, c'est qu'il y a une loi en 94 en Allemagne qui définit que tous les clubs de football doivent appartenir à leurs supporters à 51% minimum. Ça a été depuis 94 un peu foulé au pied par exemple par le Bayern, qui a dans ses statuts quelque chose un peu particulier qui fait que c'est Adidas qui est quand même derrière et qui donne une bonne partie de l'identité du club. Mais bon, pour la plupart des clubs, principalement le Sampdoria, mais aussi on pourrait parler de Fribourg, voilà. Ils ont vraiment un esprit vraiment très associationniste. C'est-à-dire que là, dans ce club-là, ou comme nous au Sampdoria, les fans, ils décident un peu de ce qui fait au sein. Ils sont majoritaires au OCA. Les assemblées générales des fans sont très suivies et très importantes dans la vie du club. Et comme ce ne sont pas que des fans, mais aussi des participants aux activités sportives des différentes sections, s'ils font n'importe quoi au niveau du directoire, ils perdent leurs fans, ils perdent leurs adhérents, ils perdent leur fonds, leur revenu, leur source de revenus, quoi. Il y a quelque chose de très spécifique à l'Allemagne qu'il faut prendre en compte pour comprendre pourquoi ce club-là, il a autant d'applications politiques au niveau des clubs européens ou mondiaux, quoi. À la différence de plein de pays où effectivement la scène des fans, par exemple Rayo Vallecano, est très antifasciste, mais par contre n'a pas de pouvoir au sein du club, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit parfois des supporters comme qui sont très politisés dans certains clubs, mais le club ne l'est pas forcément. Alors qu'à Sampdoria, tout est clarifié par une charte. Est-ce qu'on pourrait nous expliquer du coup le principe de cette charte?
Alors, le principe de cette charte, c'est que toute personne qui va entrer dans le stade ou qui va prendre une carte d'adhérent du Sampdoria va devoir se conformer à un certain nombre de principes et de pratiques. Au son nombre desquels, le fait de ne pas proférer des chants ou des cris racistes dans le stade, ça c'est la base, fondamentale, mais il y a tout un tas de points qui sont développés, la lutte contre l'homophobie, la lutte contre le sexisme, permettre justement l'accès des femmes dans des bonnes conditions à tous les services du club et puis surtout dans les travaux du stade. Ça se traduit aussi par des actions ponctuelles comme plus long terme, comme le fait de ne pas avoir de publicité mettant des femmes dénudées dans le stade. Donc les principes de la charte sont pas écrit dans le vent, ils sont appliqués à la lettre, quoi.
C'est notamment le cas en 2019, quand le club dit de mettre de côté Sengsein, son soutien à la Turquie.
Ouais, ça c'est important, effectivement, l'engagement contre les guerres. D'autant plus que là, c'était une guerre qui ne dit pas son nom, contre un territoire qui est lui-même déjà en guerre civile, le nord de la Syrie, le Rojava, qui a lui-même une forme d'autonomie partielle dans le cadre de cette guerre civile qui lui permet de développer des formes alternatives de gouvernance et qui sont très proches de ces formes de gouvernance des idéaux des fans du Sampdoria. Alors là, du coup, effectivement, quand la Turquie attaque et que Sengsein dit c'est cool, on est en guerre, du coup, on ne peut pas gagner. C'est le joueur le plus cher de l'histoire du club, mais bon, c'est pas grave, on s'en sépare avec un de ces fracas.
Du coup, je sais qu'il avait été mis de côté. Est-ce qu'il avait... Il était parti facilement au mercato d'hiver ou...
Il avait pu retrouver son club de formation, il y avait eu, mais alors je crois que le club n'a pas gagné grand-chose. Perdu de l'argent là-dessus, alors je crois que c'est une opération, si c'est une opération blanche, c'est bien, quoi.
J'avais vu que le club était très impliqué dans la cause des réfugiés, qu'ils avaient créé le FC Lampedusa,
C'est Lampedusa, effectivement, fait partie des. Ouais. Alors, ce sont des femmes qui ont, des femmes de les équipes féminines de foot qui ont décidé en 2015 de créer un club semi-amateur, enfin, semi-professionnel pour accueillir les réfugiés qui ont une pratique du football dans leur pays d'origine. Leur permettre par cette pratique du football de pouvoir commencer des démarches de stabilisation de leur statut en Allemagne, enfin, en gros, en disant, bah voilà. Vous savez faire quelque chose de concret que nous, on sait faire aussi, on va le partager. Et surtout, on va vous donner l'accès à justement la stabilité de la vie en disant, bah voilà, vous êtes footballeur. Footballeur, vous n'avez pas encore un statut pro, mais vous êtes déjà en semi-pro. Et du coup, par là, vous pouvez commencer à faire d'autres démarches et à commencer à vivre normalement.
Ils sont en combien de divisions, ce club?
C'est Lampedusa, ça doit être la division de l'État de Hambourg, parce que Hambourg, c'est une ville d'État. Donc, ça doit être la régionale 3, régionale 4, comme ça, quoi.
Okay.
C'est pas un club qui vise. De toute façon, on n'a pas cette démarche-là.
Oui, oui, oui.
Enfin, c'est une démarche sportive, surtout de prendre du plaisir, quoi.
C'est le club qui finance tout le matériel, qui, au niveau des.
Oui, voilà,
des...
Y a quand même...
Les structures,
oui,
c'est aussi le club qui,
ouais.
Au niveau des structures, c'est aussi des structures du club, le club a mis en place.
Alors, le club Lampedusa, ils ont leur propre terrain. Il y a un terrain prêté par la ville, mais ils ont pas effectivement, ils ont le matériel, ils ont les maillots qui sont produits, en ligne de production par le Paoli. Mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas un développement matériel qui demande beaucoup de fonds, quoi. C'est
oui,
quelque
oui.
chose de relativement léger. C'est comme les clubs de village ici.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est le Sampaoli qui a apporté son aide. Un autre projet intéressant, il peut être remarqué qu'il y a un développement international, c'est Viva Con Agua.
Okay.
Viva Con Agua, c'est deux joueurs du club qui se rendent compte que, bah, dans certains coins, et dont certains coins de Cuba, du coup, ont des gros problèmes d'accès à l'eau. Donc, du coup, ils vont développer une fondation qui va, alors, par exemple, aujourd'hui, cette fondation, elle va fonctionner avec la récupération des éco-cups qui sont distribués dans le fac. Donc, ils sont entrés dans le stade lors des matchs pour boire des bières. Ces éco-cups, après, sont récupérés aux alentours du stade, demander aux fans qui, après le match, discutent, est-ce que les éco-cups seront retransformés en bouteilles, qui vont permettre de vendre de l'eau, qui vont permettre de faire un bénéfice et qui vont aller dans les caisses de la fondation pour financer des épuis, des toilettes sèches, des systèmes de nettoyage de l'eau, on va dire, hein, purification de l'eau.
Purification.
Dans les pays africains, dans les pays des Caraïbes, en Asie, je crois aussi.
L'équipement du club a été pendant quelques années Under Armour, a été remplacé du coup par DIY, une création du club. Est-ce que ce genre d'initiative, c'est un petit peu aller contre l'idée de foot business, et de direct aller dans les grandes marques et là de se dire, bon, bah, on prend une marque, on crée nous-mêmes et on sait d'où ça vient et on sait ce que ça respecte nos idéaux.
Effectivement, ça va au-delà même de cette idée de ne plus dépendre d'une grande marque. Là, la direction, avec l'impulsion de la scène des fans, a décidé qu'ils allaient faire produire ces maillots. Donc ça a deux sens. Ça a ce sens de dire on n'est plus dépendant d'une marque. On n'a plus un contrat à devoir signer où on perd une partie des bénéfices. Donc, économiquement un truc assez valable. Et puis ça permet de faire tourner des lignes de production avec des matériaux de recyclage, avec des employés dont on sait quel est leur degré le respect de la boîte par rapport à leurs droits sociaux, leurs travailleurs, leur salaire. Donc on a une vue claire sur ce qui est fait, quoi. Donc ça a ce double aspect, c'est-à-dire ne plus dépendre des grandes marques, et puis surtout savoir ce qui est fait avec l'argent qui est généré par les ventes de maillots. Bon, sachant que tout au Sampaoli fonctionne ainsi, c'est-à-dire que la captation des ressources en elle-même n'est pas un problème. On est dans un système, on est dedans, on peut pas faire autrement, on aimerait qu'il soit différent, mais il l'est pas, et on fait en sorte que au moins ce qu'on capte, on le redistribue. On peut reprocher parfois au Sampaoli, disons, cette jeu d'équilibriste, d'être un trublion, un sac caillou dans la chaussure, voilà, on est différent des autres, malgré tout, on est dedans.
J'ai en tête l'idée de football business qui, entre guillemets, dévore des clubs qui peuvent être historiques.
Mm-hmm.
Et donc, notamment, que ce soit Manchester qui avait été racheté, du coup, un nouveau club s'était créé.
Oui,
j'ai aussi le football club United of Manchester.
Ouais.
Et il y a aussi à Nicosie, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'Omonia Nicosie, c'est un club qui était très lié au Parti communiste du pays. Et petit à petit, ils ont été rachetés et une partie supporter trouvait que c'était pas normal et que ça allait contre les idéaux du club. Et du coup, ils ont créé leur propre club. Vous avez peur qu'un jour, ça vous arrive, que le football business dévore, entre guillemets, les idéaux du club? Voilà, c'est ça exactement. Est-ce que c'est une peur, entre guillemets, ou vous pensez que c'est tellement implanté que ça n'arrivera jamais, que vous allez peut-être devenir, enfin, vous êtes déjà une exception, mais que, entre guillemets, ça réussira à tenir par rapport à ça.
Ça peut tenir à partir du moment où les infrastructures juridiques du pays, je parle des lois, des règlements déterminés au niveau de la DFD ou de la DFL, permettent à ce qu'on continue d'exister en tant que tel et de cette manière-là.
Okay.
Maintenant, si effectivement les modèles comme le RP Leipzig ou Bayern ou d'autres décident de se mettre à prendre de la place supplémentaire et que les licences, on va dire, l'autorisation qu'ils ont de fonctionner différemment devient la règle, on aura plus de mal à survivre en tant que club différent. Par contre, effectivement, il y a un dynamisme de la scène des fans qui va toujours contrecarrer ces projets-là. Si, effectivement, infrastructurellement, les règles du jeu sont plus faites pour qu'on puisse survivre et exister en tant que tel, on pourra faire autant de manifestations qu'on veut,
oui.
Ça ne donnera pas forcément de façon certaine un résultat. On peut envisager qu'effectivement, le Saint-Pauli doit déménager vers le Altona, un autre petit club de l'ouest de Hambourg, encore plus, on va dire, moins connu, encore plus... Où il y a un espace qu'on peut s'approprier pour effectivement faire vivre autre chose. On n'est pas en opposition globale et frontale, surtout avec tous les partenaires. Mais bon, si jamais les infrastructures juridiques, par exemple, on pourrait prendre un scénario global qui serait que l'Allemagne passe à un modèle ultra-libéral, bon, pas forcément très très socialiste aujourd'hui, mais bon, ultra-libéral, et qui décide de casser tous ces pare-feux ou tous ces paratonnerres vis-à-vis du néolibéralisme dans le sport, rien n'empêche de penser qu'effectivement, le Saint-Pauli disparaisse en tant que tel, enfin, disparaisse, soit absorbé, mais la scène des fans est quand même là. Je pense que ça aussi, ça fait la différence.
Vous avez un drapeau arc-en-ciel qui flotte sur le toit du stade depuis 2013. Vous avez des douches à proximité du stade pour les sans-abri. Le club a aussi accueilli les anti-G20 en 2017. Est-ce que du coup, le stade Millenia Tor est un peu devenu le symbole de la tolérance et de l'ouverture aux autres?
C'est justement par rapport au Millenia Tor, avec un petit article sur notre site qui montre que le stade, c'est un lieu... Alors, le stade, on peut le voir comme un lieu, comme celui de Stadio Nacional en 73 au Chili, avec Pinochet qui fait enfermer tous les opposants et les fait torturer pendant des semaines dans le stade. Mais effectivement, au Saint-Pauli, il a cette dimension de lieu, de havre, de sociabilité, d'accueil, d'inclusion. D'ailleurs, par exemple, un élément que j'ai vu, vous avez bien bossé votre sujet, mais il y a aussi, par exemple, on peut citer en plus le fait qu'il y a une crèche qui fonctionne à l'année, pas juste les jours de match au sein du stade, un musée. Que ce stade se transforme en exposition d'œuvres d'art pendant l'été, qu'il n'y a pas de match. Donc il y a toutes ces activités qui font que le stade, c'est pas juste un stade, c'est un lieu de vie. Et effectivement, un stade pour nous, enfin pour les fans du Saint-Pauli, en général, c'est un lieu de sociabiliser, c'est un lieu politique, un lieu où on se rencontre, où on débat, où on agit, où on change le monde.
Au niveau sportif, le club n'a jamais fait mieux qu'une 10e place en Bundesliga, vous l'avez dit vous-même, que le militantisme était entre guillemets plus important que le sportif. Est-ce que du coup, est-ce que le militantisme, enfin, il dépasse le sportif, mais est-ce qu'entre guillemets, il le freine? Est-ce que ça reste un petit peu un problème? Et le fait de, par exemple, jouer en Bundesliga 1, ce serait pas, entre guillemets, une plus grande vitrine? Est-ce que vous voulez, du coup, devenir une vitrine? Ou le fait de rester en Bundesliga 2, c'est pas très grave parce que les gens qui veulent vraiment s'y intéressent et ça reste secondaire, le fait de dominer un petit peu sur la scène du football?
T'as des grands débats au sein de la scène des fans. T'as des grands débats dans le sens où effectivement, il y a une certaine partie de la scène des fans qui estime que accéder à la Bundesliga, s'y maintenir et faire des performances respectables, sans tomber non plus dans le délire de on va faire la Ligue des Champions, mais au moins faire des performances respectables, de pas se prendre un 6-1 à chaque fois qu'on rencontre le Bayern en Bundesliga, quoi. Ça serait effectivement le but pour avoir une vitrine plus importante. Et pas que de ça, et puis aussi pour faire plaisir en termes de résultats, parce qu'on va pas se cacher la face, hein, on aime bien voir d'autres équipes gagner, quoi, même si bon, c'est pas le centre du truc, mais bon, au moins, oui, comme vous disiez, pas se prendre des tollés à chaque fois à tous les matchs. Mais malgré tout, une autre partie de la scène des fans, elle estime que bon, l'important, c'est ce qui est réalisé au sein du quartier, au sein de la ville, au sein de l'Allemagne, et que finalement, la Bundesliga 2, c'est très bien aussi pour le faire, et que on arrive, comme vous le disiez, à générer un engouement, un intérêt, une curiosité, aussi bien en Allemagne qu'à l'étranger, autour de ces valeurs, même en Bundesliga 2. C'est un club qu'on peut pas oublier qu'il a quand même des revenus de marketing qui sont équivalents à ceux d'un club de première division anglaise. Donc ça, c'est pas négligeable. Maintenant, effectivement, que notre positionnement puisse avoir un retentissement plus important, à quel prix? À quel prix? C'est comme on vous le disait, si on doit accueillir des 5 Sain à tout va parce qu'il faut gagner des matchs, on va se retrouver à se poser des questions sérieuses sur qu'est-ce qu'on attend de nos joueurs. Nos joueurs, pour l'instant, quand ils arrivent au club, ils font un tour du quartier, ils en comprennent l'histoire, ils en comprennent la sociologie, on leur présente un peu les valeurs, enfin, plus qu'un peu d'ailleurs. Ils savent où ils arrivent, ils savent où ils mettent les pieds. Maintenant, si on doit accueillir n'importe quel joueur plus talentueux, mais avec une base, on va dire, idéologique et background politique quelconque, c'est plus compliqué. Si c'est juste pour gagner des matchs, on va se retrouver avec des sérieux paradoxes. Et dans nos familles politiques, on n'aime pas trop les paradoxes, on aime bien la cohérence. Ouais. Là, ça va devenir très vite un sujet qui va brûler, ça va être la patate chaude, quoi.
Les joueurs qui jouent à Sampdoria sont pour la plupart politisés ou
Mais par contre, ils savent où ils mettent les pieds.
Ok.
Et ouais. Par exemple, certains ne se disent pas quand ils arrivent qu'ils ont déjà un background antifasciste, antiraciste à l'afficher parce qu'ils savent qu'ils sont au bon endroit pour le faire. Okay. Et dans le club, ils pourraient pas. Ils oseraient pas. C'est un milieu, le football, on peut dire, le football professionnel du foot business d'aujourd'hui. Et qui gomme les individualités. On peut pas être homosexuel dans le football, c'est très difficile, quoi. Si au Saint-Pauli, si un joueur déclaré qu'il est homosexuel, ben il serait accueilli bras ouverts et enfin d'autant plus si c'est con. Talentueux, évidemment, mais même s'il n'était pas talentueux, jamais au Saint-Pauli il devrait se sentir comment dire.
C'est ça, c'est qu'il peut être homosexuel dans le football, mais c'est que personne d'autre le saura parce qu'il n'osera pas le révéler au grand public, quoi.
Et pareil, si un joueur a des bases antiracistes, on a notre attaquant qui est pas un des plus performants, mais enfin qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Simon McKinnock, un Danois. Bah, il est pas très bon, mais on l'aime beaucoup parce que lui, quand il va sur Instagram, il poste des trucs intéressants. Puis c'est pareil pour d'autres joueurs. On sait que leurs valeurs sont compatibles. Plus que compatibles, elles sont en consonance avec ce qu'on défend nous. Évidemment, s'ils avaient les pieds un peu moins carrés, on serait encore plus contents.
Une autre équipe existe à Hambourg, du coup le HSV. Mm-hmm. Quelles sont vos relations avec le club et leurs supporters aujourd'hui? Est-ce que la droitisation des années 80 dont vous m'avez parlé tout à l'heure est toujours présente ou est-ce que ça s'est un petit peu tassé avec le temps?
Non, ça s'est un peu effacé, dans le sens où les supporters du HSV eux-mêmes ne sont pas tous un peu
guidés
avec une sensibilité humaniste et compagnie, ne sont pas tous passés au Saint-Pauli. Au contraire, ils se sont organisés dans leur propre club, sous l'impulsion évidemment de ce qui se faisait au Saint-Pauli, en disant « bon, on va pas rester en reste, on va pas accepter ça nous, chez nous ». Donc du coup, il y a aussi un travail qui est fait, aussi avec les réfugiés, je veux dire, par exemple, Bakary Jatta, un de leurs ailiers, est un ancien réfugié. Donc ils l'ont intégré au sein des Narvouk, c'est-à-dire l'équipe de formation, puis ils l'ont intégré en équipe première. Donc, et puis au sein de la scène des fans du HSV, il y a des gens qui font un très bon boulot. Ils ont aussi un fan latin, ils ont aussi des initiatives intéressantes, mais il y a toujours effectivement une petite frange. Mais c'est celle qu'il faut, comment dire, on pourrait dire en fait que dans un stade, si on les laisse s'exprimer, si on recule, eux ils vont avancer. Si on laisse un espace de disant, bon allez, on va reculer, on va dire rien dire, on va pas se manifester pour pas aller au fight. Bah oui, mais eux ils vont continuer à prendre de l'espace. Et là, petit à petit, effectivement, au HSV, ils ont compris que la stratégie d'aller au Saint-Pauli pour développer autre chose dans un autre club, c'était bien, mais qu'il fallait aussi qu'en parallèlement, il y ait une réponse au sein du club du HSV. Donc même le directoire du HSV s'est posé la question. Ils n'ont pas été aussi loin que Saint-Pauli, mais ils ont fait quand même un bon boulot.
Lors des derbies, qui est entre les deux clubs, est-ce que ça reste tendu entre les supporters ou ça reste à peu près amical aujourd'hui?
Non, ça reste correct parce que effectivement c'est des gens qui peuvent être de la même famille, avoir un club différent, du même quartier, de la même usine ou du même bureau. Donc non, il y a quand même pas, c'est pas le derby de la Bombonera à Buenos Aires. C'est pas deux quartiers qui s'affrontent avec deux identités très fortes. Non, ça reste un derby vivable. C'est pas, évidemment, c'est un derby. C'est quand même il y a un enjeu sportif, symbolique, et ça reste un derby vivable. Je pense que, par exemple, le derby Roma-Lazio est beaucoup plus tendu. Et parallèlement à ça, nos clubs avec lesquels on a le plus de mal, c'est des clubs comme l'UPEC ou Hansa Rostock. Là, effectivement, il y a une politisation, mais de l'autre côté, c'est que les rencontres entre supporters lors des défilés avant les matchs ou les blocs de supporters se rendent au stade sont beaucoup plus risqués, quoi. Parce que là, c'est vraiment très politisé. Il y a vraiment, c'est pas qu'une question sportive, là aussi. C'est vraiment une question de Rostock, c'est la ville où il y a eu des foyers de travailleurs immigrés qui ont brûlé dans les années 90. Bon, et puis où les signes ou ex-nazis sont assez fréquents, quoi. Donc là, on sait qu'effectivement, c'est plus avec eux qu'on va avoir des problèmes.
Et du coup, les clubs là, du coup, c'est la montée du néo-nazisme. Est-ce que les directeurs des clubs sont, entre guillemets, liés à ces questions-là, ou c'est comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment les supporters uniquement de leur côté et le club un peu séparé de ça et Elles sont détachées un petit peu.
Aussi, je pense qu'à Rostock, pour prendre l'exemple le plus intéressant, parce qu'ils vont monter en deuxième division cette année, on va les rencontrer. Rostock, leur directoire, il est pas néo-nazi. Et là, effectivement, c'est qu'une fois de plus, la scène des fans de Rostock organisée n'a pas ce caractère-là. Maintenant, ils ont une scène des fans parallèle, underground, qui a cette tendance à valoriser des choses nauséabondes. Maintenant, est-ce qu'ils font le travail à 100%? Bon, ça reste un sujet à caution, parce que s'ils existent encore, ces gens-là, dans les travées, c'est qu'il n'y a pas eu une politique très claire et très définitive du club à ce niveau-là. Mais j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas aujourd'hui en Allemagne un endroit, une ville, un club où le néonazisme fait consensus et où il peut avancer comme institutionnel. Il ne peut avancer en Allemagne que dans l'ombre. Une ombre plus ou moins complète, hein, parce qu'effectivement, on les voit quand même. Hein. Mais malgré tout, je peux pas envisager. J'ai des ennemis absolument certains parce qu'ils sont dehors du Rostock, tout au contraire.
Ouais.
On a des gens du Rostock qui viennent vers nous, qui dialoguent et parlent au niveau du fan club. Ça serait très simple de tout
penser au nom au blanc.
Pareil, au Saint-Pauli, on a des gens qui sont un peu uberlus et qui n'ont pas tout compris de nos valeurs. Hein.
Mais
non, mais c'est vrai. Il ne faut pas non plus faire un... Ça serait le Saint-Pauli, le club des anges. Non, ben non, ce serait trop simple.
Le club est devenu aujourd'hui une marque. On voit notamment avec le logo qu'on retrouve un peu partout. Comment est apparu ce logo avec le crâne et les deux yeux croisés?
C'est justement cette scène des autonomes allemands. Il y avait un gars, un anarchiste qui occupait les immeubles, enfin certains immeubles. Il était dans un immeuble de la Affenstrasse, une rue qui donne sur le port de Hambourg. Et il avait retrouvé, il s'appelle Doc Pabus. Maintenant, il supporte plus le Altona, toi. Il passait sur un club encore plus local pour dire sortir un peu de cet engouement international du Saint-Pauli. Il avait trouvé sur un marché un drapeau de pirate, sachant que un des personnages historiques de Hambourg, c'est un pirate justement très connu. Ce Doc Mabuse, il l'avait ramené dans les travées du club et c'est devenu très rapidement une icône. Et le club l'a racheté en termes de droits d'image, aux alentours de 92, 95 à peu près, pour développer ses premières lignes de t-shirts. Puis c'est devenu effectivement un produit dérivé sur toutes les coutures. Les possibilités ont été exploitées, je crois, à peu près.
On peut dire qu'au club, l'argent gagné est redistribué pour des bonnes causes, donc...
Oui, voilà, il sert à payer les salaires des joueurs qui sont pas mirobolants. C'est des salaires très corrects, hein, mais pour des gens qui travaillent 15 ans dans leur vie en tant que professionnels de football. Puis après, c'est beaucoup, bon, les structures, les infrastructures du club, mais qui sont aussi tournées vers le service social. Par exemple, le club finance un centre de soins palliatifs pour personnes atteintes du sida dans le quartier. Il finance des nuits d'hôtel pour les personnes sans-abri pendant les longues périodes hivernales. Tout ça, c'est pas anodin, quoi.
On m'a dit que le club était devenu une marque. Il y a aussi beaucoup des centaines de groupes de supporters qui sont créés au fil du temps, notamment le vôtre. Est-ce que du coup, vous êtes lié au club par quelque chose d'officiel ou ce sont des fan clubs qui sont non officiels?
Il y a des fan clubs non officiels parce que moi, j'ai tendance, puisque j'ai créé une carte Google Maps des fan clubs dans le monde, et il y a des fan groups. Ils sont parfois deux, trois personnes, voire une, qui lancent une page Facebook, un compte Twitter, et qui disent, voilà, moi je suis à tel endroit, je suis fan du Saint-Pauli, venez me retrouver, et puis on regardera les matchs ensemble. C'est un groupe, il n'y a pas de lien avec le club, pas de lien. Lorsqu'on passe au niveau du fan club, là, effectivement, on en est un, hein, avec le fan club francophone, on se rentre dans une instance de la scène des fans qui s'appelle le fan club Sprecherrat, c'est-à-dire l'assemblée des fan clubs. Cette assemblée des fan clubs prévoit qu'il y a une adhésion, 30 euros par an, et qu'en retour, on a des services divers et variés qui permettent de se retrouver plus ou moins inclus, je dis bien plus ou moins parce que ça reste toujours à négocier, dans la vie du club.
Saint-Pauli, comme on l'a dit au tout début, c'est un club omnisport. Vous étiez notamment en première division de rugby en 2018-2019. Est-ce que du coup, vous suivez aussi les autres résultats?
Paul, des personnes non-voyantes, qui est aussi très très performant, Saint-Pauli, le football féminin. Puis après, bon, des activités plus liées à la vie du club local en tant que... sociabilité, par exemple, si j'étais que joueur de ping-pong, je m'intéresserais peut-être au ping-pong, mais n'étant pas joueur de ping-pong, du coup, je sais que ça existe, mais en même temps, je connais personne qui en joue, donc voilà quoi. Mais ouais, je suis d'autres aspects de la vie interne du club. Ouais.
Et du coup, le côté engagement, etc., est aussi important dans les autres sections dans la section du
Ah
foot
oui.
ou il y a des différences? Non, tout est
Oui,
lié.
par exemple. Ouais, par exemple. Bah oui, parce qu'en fait, t'es un club avec des statuts qui valent pour l'ensemble des sections. Et puis, par exemple, les filles des équipes féminines, elles sont très heureuses quand je peux faire un match féminin de sport et qu'il y a du monde. Donc, effectivement, c'est aussi cet esprit de dire, tiens, on n'est pas sexiste, donc on va aller supporter l'équipe féminine aussi bien qu'on va aller supporter l'équipe 3 des hommes ou que l'équipe masculine numéro 1, quoi.
Dernière question, je pense. Vous m'avez dit que le Sampdoria était très, il est très, très mobilisé. Il y a quelques clubs que vous avez donnés comme le Red Star, Livourne ou le Rayo, mais c'est des échelles secondaires selon vous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à peu près au même niveau que vous, niveau engagement politique en Europe, ou vous êtes un petit peu ceux qui sont au-dessus et les autres, même s'ils essayent, c'est plus compliqué parce qu'ils, vous avez dit, ils ont pas les, c'est pas la même chose qu'en Allemagne que dans un autre pays, donc c'est compliqué de s'adapter.
Oui, enfin, c'est ce que enfin, ce que tu viens de dire à la fin, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut distinguer en gros la politique interne du club en tant que institution et l'engagement des fans. En termes d'engagement des fans, tu me citais la Nicosie, tu me citais tous les clubs que je t'avais listés. On peut pas dire qu'ils sont moins antifascistes que nous. Enfin, je veux dire, ça serait très con déjà de commencer à faire une étude
Une
de
liste,
valeur à ce
oui.
niveau-là, quoi. Parce que ça repose un groupe sur des dizaines, des centaines d'individualités. Donc il y a sans doute des gens qui iraient plus loin s'ils étaient de Hambourg en termes de politique interne du club, s'ils étaient là de là-bas, mais ils seront dans un autre contexte, et c'est le contexte qui détermine. Une fois de plus, s'ils avaient des lois en Espagne qui font que, par exemple, Barcelone, au lieu d'être un système d'achat et de vente de
De
droits,
joueurs.
voilà, d'aller dans le stade qu'on revend à des touristes qui
Oui.
viennent pour voir le match des champions, s'ils avaient un véritable associationnisme sportif où ils sont impliqués au sein du club, je pense que ça pourrait aller très loin. Mais la structure n'est pas là, enfin
Ouais.
le cadre juridique n'est pas à ce niveau-là. Le Red Star, c'est pareil, quand ils contestent les fans, la ministre des Sports, le club se détache complètement, disant non, non, on n'est pas comme ça, machin. Mais bon, s'ils avaient un directoire différent dans un cadre juridique
Ouais.
différent, on pourrait effectivement penser qu'il y a des clubs qui se politisent et qui sont politisés. Comme je le disais, hein, le stade, c'est un lieu d'expression aussi de plein de choses et dont les positionnements passent à la société, à ses enjeux, à ses défis, à ses questions. Voilà quoi.
Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas, selon vous, une ville ou un club qui était à 100%, enfin, oui, ou ce qui incarnait le nazisme, etc. Mais est-ce que, du coup, il y a quand même des gens, des clubs, des directeurs qui sont, entre guillemets, très à droite en Allemagne ou dans d'autres pays, si vous avez des exemples, qui sont très marqués à droite et qui le sont encore aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup eu de groupes très à droite dans beaucoup de stades, mais est-ce que, du coup, aujourd'hui, selon vous, il y en a encore ou.
Si on veut prendre un club qui a quand même défrayé la chronique plusieurs fois de par le comportement de ses joueurs qui a jamais été sanctionné, comme Paolo Di Canio, moi je pense à la SS Lazio, quoi. Alors SS, c'est pas le lien, alors il faut détacher tout de suite avec le. C'est aussi SS Napoli, enfin voilà. Mais puis c'est ça Sportiva, c'est autre chose. Mais la Lazio, effectivement, il y a une très grande acceptation, collusion avec les idées de droite, voire droite extrême, sachant que là aussi, faut peut-être un petit peu avoir conscience que parfois, un président de club se dit, bah, je vais pas m'aliéner
Une partie des fans.
une partie très importante dont je sais qu'elle est très influente, qu'elle est très active. C'est pas forcément qu'il soit d'extrême droite en lui-même et de façon très consciente ou très volontariste. Et c'est simplement que par opportunisme et manque de courage politique, il accepte que ça se développe, quoi. Zénith Saint-Pétersbourg est un bon exemple aussi de club qui est géré par des gens qui ont une ligne politique très, 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 très droitiste et qui acceptent totalement les signes néo-nazis
Néo-nazi.
dans leur travail, quoi.
Vous m'avez parlé de partenariat. Est-ce que du coup, à Saint-Pauli, il y a ce problème où ça ne s'est pas fait avec des gens à cause de cet engagement
Ah oui.
Parce que logiquement, les
Il y
gens.
a des tas de propositions de marques qui ne peuvent pas aboutir, soit de la part de la marque quand elle voit les
Oui,
conditions
c'est ça.
d'accès, parce que il y a quand même toute la charte, elle n'est pas tout tournée que vers les supporters, aussi tournée vers les relations du club avec d'autres
Avec les autres.
instances. Et puis de la part du club, la scène des fans qui disent, ah, non, avec eux, c'est pas possible. Bon, fini, ça, vous oubliez. Et les pubs, par exemple, dans le stade, comme je vous disais,
Oui.
y a plein de pubs qui pourront jamais s'afficher au sein du Milan d'or. Hein. Déjà, faut pas qu'elles soient trop invasives. Deuxièmement, faut pas qu'elles soient trop répétitives. Troisièmement, surtout, faut qu'elles véhiculent un message qui soit propre.
J'y pense là, le sponsor maillot du club, est-ce qu'il y a un gros sponsor maillot comme dans tous les clubs ou est-ce que du coup il y a ce côté on n'en a pas
Ah oui,
ou est-ce qu'il y a ou est-ce que c'est une cause défendue qui entre guillemets comme le Barça il y a quelques années qui était pour l'UNICEF même si ça a tourné mais
C'est une marque de leur Congstar, je sais plus dans quoi ils interviennent, si c'est du numérique ou ou autre chose, mais je crois que c'est dans le numérique et dans l'état téléphonie numérique. Alors eux, ils ont une politique effectivement interne. Quand il y a besoin, ben ils nous cèdent l'espace maillot, l'espace sponsor maillot pour des plein football, plein fascistes, ne pas de football pour les fascistes. On a vu ça il y a quatre journées, enfin, avant la fin du championnat. Le club avait lancé un mois et demi de manifestations sur les réseaux sociaux en faveur de l'antiracisme par des interviews de gens importants sur cette lutte. Et autre rappel de l'histoire, et à un moment, il fallait le symboliser pour le mettre en valeur aussi sur le maillot. Donc là, Congstar a dit, bon, bah, écoutez, vous l'avez dit, faites-le, nous, on accepte de ne pas être présent sur cette journée-là. Voilà. Et pareil pour la vente du nouveau maillot, que j'ai sur moi d'ailleurs aujourd'hui. il était possible en pré-vente de mettre n'importe quoi à la place de ce Congstar qui apparaît. Okay. Donc il y a une politique de la part du sponsor principal qui a compris qu'effectivement ils étaient sur un marché un peu différent.
Particulier. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions.
Je t'en prie, Paul.
Retrouvez l'ensemble de nos entretiens et tous nos autres podcasts sur le site de Causon d'Europe, www.causon-d-europe.eu.